Le journal Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. 17 gilets jaunes seront jugés pour les dégradations commises sur l'Arc de Triomphe. C'était le samedi 1er décembre 2018. L'annonce de ce procès a été faite hier, après un an et demi d'enquête. Précision à suivre.
Des étudiants arrêtés en Biélorussie pour avoir chanté la Marseillaise à l'université de Minsk.
Nouvel épisode de la répression des opposants au président Loukachenko. On y reviendra depuis Moscou avec Claude Bruyot. Au Mali, une semaine de concertation nationale commence à partir d'aujourd'hui. Les colonels qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août dernier ont promis d'organiser une transition. Reportage à Bamako avec notre envoyée spéciale Valérie Crovin.
La rentrée politique se poursuit en France avec les Républicains à Port-Marly.
LR tente de miser sur l'engagement des jeunes, nous dira Rosalie Lafarge. Et puis on a appris hier soir la mort d'une grande dame du music-hall. Annie Cordy s'est éteinte à l'âge de 92 ans. Un hommage à une artiste de la joie à la fin de ce journal. Et puis votre invité, Caroline.
Eh bien, je l'annonçais tout à l'heure, c'est Vincent Peillon, ancien ministre et philosophe du politique. Au lendemain du discours et de la cérémonie pour les 150 ans de la proclamation de la République, on se demandera qu'est notre doctrine républicaine devenue en sa compagnie.
Après un an et demi d'enquête, 17 gilets jaunes vont être jugés pour les dégradations commises sur l'Arc de Triomphe. C'était le samedi 1er décembre 2018. Le monument avait été tagué, dégradé, mais aussi pillé. L'annonce de ce procès a été faite hier. Rappel des faits et des circonstances de cette enquête avec Adrien Palluet.
Les images de violence ont tourné en boucle ce samedi 1er décembre 2018. Nuages de gaz lacrymogène, mouvements de foule et une opposition frontale entre manifestants et forces de l'ordre. À la clé, 412 interpellations et 378 gardes à vue. Mais un événement a particulièrement marqué les esprits, les dégradations commises sur l'Arc de Triomphe. Portes enfoncées, tags et mobiliers brisés ou volés, plus d'1 million d'euros de préjudice, calcule le Centre des Monuments Nationaux qui administre le lieu. Dans la foulée, une information judiciaire est ouverte et 14 personnes sont mises en examen. Un an et demi plus tard, l'enquête est terminée, non sans mal, puisqu'il a été presque impossible d'identifier les véritables auteurs des faits. Et pourtant, 17 personnes seront bien jugées, 10 devant le tribunal correctionnel pour vol ou encore dégradation aggravée, 6 devant le tribunal de police et une dernière, mineure à l'époque des faits, sera jugée par le tribunal pour enfants. La plupart des prévenus n'ont pas de casier judiciaire, ils expliquent ne pas être les auteurs des dégradations, qu'ils ont seulement trouvé refuge dans l'Arc de Triomphe pour fuir les gaz lacrymogènes. Pour leurs avocats, comme maître Noémie Saïdi-Cottier, même si les faits sont là, cela ressemble à une réponse pénale au choc subi par la société devant cette violence, sans véritable consistance.
Adrien Palluet. Alors que la droite cherche un candidat potentiel pour la prochaine élection présidentielle et que François Baroin semble ne pas vouloir endosser cette responsabilité, selon un article du journal Le Figaro hier et un autre paru dans le journal Libération ce matin, le parti Les Républicains fait sa rentrée politique à Port-Marly dans les Yvelines depuis hier et jusqu'à ce soir. LR qui veut mettre l'accent sur l'engagement de la jeunesse avec l'espoir que la reconstruction passera par eux. Rosalie Lafarge.
5 000 jeunes adhérents revendiqués aujourd'hui. On est bien loin des 30 000 de 2007. La droite veut rattraper la jeunesse et lui déroule le tapis rouge.
Si vous étiez venu pour entendre une litanie de discours, vous serez déçu. En revanche, si vous êtes venu pour apporter vos contributions, pour être la locomotive de notre famille politique, alors vous êtes au bon endroit.
Même s'il n'échappe pas à quelques discours, les jeunes, c'est vrai, sont au cœur de ces deux jours, invités à soulever des questions, lancer des débats. Et ça, Pierre-Henri Dumont, en charge de la jeunesse chez les LR, en est un peu fier.
Bah regardez, quel parti politique aujourd'hui est capable de rassembler 1000 jeunes pour une université de rentrée? Aucun. Et vous savez, pour moi, la jeunesse, c'est pas simplement coller des affiches et être dans des meetings. C'est aussi formuler des propositions et créer avec la jeunesse de France le programme de la droite en 2022.
Et les jeunes militants l'attendent, ce programme. À 19 ans, Nicolas en est sûr, il est de droite, il est moins sûr de ce que dit la droite aujourd'hui.
La ligne dans le parti aujourd'hui n'est pas encore assez claire en fait. On passe d'une ligne Wauquiez assez conservatrice à une ligne Christian Jacob, on ne sait pas trop ce que c'est. On n'a pas réellement de tête et de colonne vertébrale d'une ligne à suivre.
On ne sait pas où on va ni avec qui, en chéri Patrick, sympathisant de 22 ans. Il attend, comme beaucoup, jeunes et moins jeunes, un nom pour 2022.
C'est très important d'avoir ce nom, un nom rassembleur, parce qu'il y a plusieurs courants politiques qui se réapproprient les idées de la droite. Il faut un candidat assez fort pour incarner toutes les idées qui ont fait le beau jour de la droite, justement. et ce nom sortira et nous permettra de remporter les élections de 2022.
Parmi les noms souvent cités, celui de François Baroin, le maire de Troyes sera là tout à l'heure au Port-Marly, mais son silence sur ses éventuelles ambitions présidentielles qu'on annonce déjà douchées en agace plus d'un et il ne devrait pas être rompu aujourd'hui.
Un reportage signé Rosalie Lafarge pour France Culture. Au procès des attentats de janvier 2015, la Cour d'assises spéciale de Paris a terminé hier l'examen de personnalité des 11 accusés présents. Elle s'est ensuite penchée sur la personnalité d'Ayat Boumediem, la compagne d'Amédi Coulibaly, le tueur de l'hypercacher, parti en Syrie quelques jours avant les attentats et qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Et c'est sa sœur aînée qui est venue à la barre, Florence Turme.
Entre le masque et ses cheveux noirs, on distingue mal son visage. Mais à la barre, Keltoum Boumediem commence par dire son émotion et entame le récit de la vie de l'absente, sa petite sœur, marquée à 8 ans par la mort de leur mère, placée en foyer puis chez un couple d'amis qui l'élèvera comme sa fille. Elle avait retrouvé un équilibre familial, elle voulait être professeure d'histoire, ajoute le témoin. Après sa rencontre et son mariage religieux avec Amédi Coulibaly, elle dit ne pas avoir cerné cette radicalisation. Honnêtement, je n'ai pas vu la menace. Lui, c'était quelqu'un de taiseux. Et votre réaction quand vous apprenez ce qui s'est passé, interroge le président. Elle semble reprendre son souffle. Il n'y a pas de mots en fait, c'est l'incompréhension totale, cette barbarie, quelque chose d'intolérable, d'insoutenable pour la société et pour tout le reste de ma famille. Le 27 avril 2015, elle reçoit un appel de sa sœur. Je suis allée directement au 36 quai des Orfèvres. Je vous sens un peu contrainte dans vos déclarations, intervient l'avocate générale. Vous nous dites vraiment tout ce que vous avez à nous dire. Keltoum Boumediene affirme qu'elle ne sait pas où se trouve sa sœur, qu'il a pourtant appelée 7 fois, la dernière en octobre dernier. Et si elle sonnait aujourd'hui à votre porte, demande un avocat, je lui ouvre et on fera les démarches nécessaires pour la justice. Vous êtes sûre ? Certaine.
Florence Turme. Près de 9000 nouveaux cas de coronavirus enregistrés en 24 heures par les autorités en France. Un nouveau record depuis le début de la pandémie et le lancement des tests à grande échelle dans notre pays. De son côté, l'OMS prévient, l'Organisation mondiale de la santé ne cautionnera pas un vaccin contre le coronavirus qui n'est pas sûr et efficace, selon les mots de son directeur général hier. L'OMS précise de ne pas s'attendre à une vaccination généralisée avant le milieu de l'année 2021. Ainsi va la vie, au revoir, ce sont les mots d'Alain Coq peu après minuit sur Facebook cette nuit. Atteint d'une maladie incurable, âgé de 57 ans, ce militant catholique du droit à mourir dans la dignité a cessé de prendre son traitement, toute alimentation et hydratation cette nuit. Il avait demandé à Emmanuel Macron qu'il autorise son médecin à lui prescrire un barbiturique, une demande rejetée par le chef de l'État cette semaine.
France Culture 8h08, suite du journal. La répression continue en Biélorussie. Cette fois, ce sont des étudiants de l'université de langue de Minsk qui ont été arrêtés hier soir.
Oui, arrêtés pour avoir osé chanter la Marseillaise pour témoigner leur opposition au président Loukachenko. Les précisions de Claude Brouillot.
C'était sans doute comme un signal pour eux. Dès que l'hymne français a été entonné, ils sont sortis de leurs autocars sans plaque d'immatriculation pour tenter d'arrêter tous ceux qui avaient chanté la Marseillaise. Choquée par tant de brutalité, une jeune élève de deuxième année raconte sur le site d'un média indépendant qu'elle a échappé de justesse à l'arrestation.
Ils ont essayé de m'amener aussi. Ils ont arrêté des élèves de quatrième année. Et l'administration de l'université n'a absolument rien fait. Il y avait une vingtaine d'aumônes pour s'en prendre brutalement à quelques étudiants sans défense.
Cette scène ponctue une semaine de contestation universitaire à Minsk notamment, au cours de laquelle des centaines d'étudiants ont dit eux aussi leur rejet de la présidence Loukachenko. Ils ne veulent plus de celui qui, il y a quelques années encore, était perçu comme l'homme providentiel du pays, soucieux alors de barrer la route au capitalisme sauvage en préservant certains acquis sociaux de l'époque soviétique, une époque de référence durant laquelle, sans doute, le jeune Alexandre Loukachenko, comme des millions d'élèves en leur temps, devait chanter sur les bancs de leur école pour ce qu'elle avait de révolutionnaire, une certaine Marseillaise.
Des étudiants, là aussi, en pointe de la contestation, cette fois en Thaïlande. Depuis le mois de juillet, ils mènent un mouvement pro-démocratie. Ils réclament le départ du gouvernement et la dissolution du Parlement. Mais pour la première fois, ils osent s'attaquer aussi à un tabou, celui de la monarchie. Les explications de David Camerou, maître de conférence aux séries Sciences Po, au micro de Nadine Stein.
Ce qui est différent cette fois depuis d'autres mouvements de protestation des dernières années, c'est cette mise en question du roi et du rôle du monarque en Thaïlande. Et il faut dire que le Rama X l'a beaucoup cherché Il n'est pas simplement vaniteux et violent, mais il est également politiquement, excuse-moi de le dire, stupide. Parce que pendant le conflit, le roi a continué de vivre en Bavière dans un hôtel de luxe, en faisant des visites de temps en temps en Thaïlande. Brahma dit, c'est l'arrogance, l'indifférence envers son peuple.
Les étudiants demandent également le départ du gouvernement et la dissolution du Parlement. Quelles sont les chances de réussite de ce mouvement pro-démocratie?
La question est de savoir qui va sacrifier qui, en fait. Est-ce que les militaires qui sont au pouvoir d'une façon plus ou moins démocratique vont continuer à soutenir le roi? Ou est-ce qu'ils vont accéder au moins une partie aux demandes des étudiants en limitant le pouvoir du roi actuel?
Une interview à retrouver dans Le Monde, dans Le Viseur. Nouveau rendez-vous en ligne. Dossier complet à retrouver sur notre site internet franceculture.fr.
Direction maintenant le Mali, où la concertation nationale promise par les militaires commence aujourd'hui.
Oui, les colonels qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, surnommé Ibeka, le 18 août dernier, ont promis de rendre les commandes aux civils à l'issue d'une transition dont la durée reste encore indéterminée. Cette concertation nationale est prévue sur une semaine. Son objectif est de définir qui, d'un civil ou d'un militaire, mènera cette transition et combien de temps celle-ci durera. Si la population malienne a plutôt réagi favorablement au renversement du président Ibeka, d'autres s'interrogent sur le devenir de cette transition. C'est le cas du rappeur Milmo, figure de la scène bamakoise, qui a rencontré notre envoyé spécial à Bamako, Valérie Crova.
Quand la junte a pris le pouvoir le 18 août dernier, le sang de Milmo n'a fait qu'un tour.
Militaire populiste, population aveugle et motivée.
Dans son single intitulé « Coup de poing d'interrogation », Milmo dénonce la confiscation du pouvoir par des militaires.
Dans ma tête, un de l'histoire se répète.
Ça c'est le quatrième coup d'État. J'ai remarqué qu'à chaque coup d'État, le pays recule de 10 ans en arrière. Donc, est-ce que ce coup d'État aussi ne va pas nous mettre en recul ? Comme tous les autres coups d'État précédents. C'est pourquoi je dis ça, l'histoire se répète.
Certains Maliens y ont vu un soutien au régime de l'ancien président Ibeka.
On pense que ouais, j'ai soutenu, mais un président qui est déjà parti, pourquoi le soutenir?
Pour Milmo, le coup d'État du 18 août est louche, tout comme le sont les motivations des militaires.
J'en profite pour conseiller aussi ces militaires-là, car je le dis dans le morceau, c'est dans l'ADN de l'Africain de s'accrocher au pouvoir. Donc, qui viennent, qui mettent la transition en place et retournent dans les casernes.
Chacun en prend pour son grade dans ce titre qui s'apparente à un brûlot, dans lequel Milmo exprime ses inquiétudes pour l'avenir de son pays.
Valérie Crova, envoyée spéciale de France Culture au Mali. Elle incarnait la joie, la fantaisie et toute une époque du music-hall. Annie Cordy s'est éteinte hier à l'âge de 92 ans. Ses plus grands succès, Tata Yo-Yo et La Bonne du Curé notamment, ont fait chanter et danser plusieurs générations. Actrice aussi, elle avait donné la réplique à Jean Gabin et montré son talent dramatique dans Le Passager de la pluie de René Clément. On l'écoute dans cet extrait d'une émission de Martin Pennet sur France Culture le 7 septembre 1998 pour les 50 ans de la carrière de la chanteuse et meneuse de revue.
Ah non, non, j'ai horreur des grosses têtes, je supporte pas. Non, moi, c'est vrai que je suis arrivée dans ce métier un petit peu, pas par hasard si vous voulez, mais j'ai une petite enfant, j'étais pas très costaud, mes parents trouvaient bon de me mettre dans un cours de danse, j'ai appris de la danse, et par la danse, on faisait des petits galas de bienfaisance pour les enfants malheureux dans les hôpitaux, etc. Alors mon prof m'a dit un jour, pourquoi tu chanterais pas une chanson? Vous savez, quand on a 10 ans, je pense que tout l'univers nous est ouvert, donc j'ai dit oui, pourquoi pas? Et puis voilà, j'ai chanté deux chansons, j'ai fait tous les radios crochets, puis je suis arrivée sur une scène comme ça.
Faut-il rappeler que cette scène était à Bruxelles?
Absolument, je suis née à Bruxelles, je suis une bonne bruxelloise, voilà. Oui, et puis après, ben voilà, tout s'est enchaîné, mais pas par... J'ai pas un plan de carrière, moi je suis pas carriériste du tout, et j'ai jamais eu une ambition délirante. Mais donc, je suis arrivée parce que les gens m'ont poussé un petit peu. Voilà.
Le sourire d'Annie Cordy au micro de Martin Pennet sur France Culture, une archive du 7 septembre 1998. La météo, du soleil sur une large moitié sud dès ce matin, quelques averses signalées ce matin sur la Marne et l'Île-de-France, du brouillard sur la Moselle, alternance de nuages et d'éclaircies sur la moitié ouest ce matin, l'après-midi, un temps sec et le plus souvent ensoleillé partout. Les températures ce matin, 13 à 22 degrés avec 13 degrés à Brest, 15 à Lille, 17 à Paris, 19 à Lyon et jusqu'à 22 degrés maximum à Nice. Cet après-midi, 18 à 28 degrés du nord au sud.